Radio Shalom.
Vous êtes sur Radio Shalom. Attention, événement. L'association Choisir l'école juive présente la 6e édition du Salon des écoles juives. Dimanche 19 janvier, préparez sereinement la prochaine rentrée scolaire. Pendant une journée, les représentants de toutes les écoles juives de France et filières post-bac vous accueilleront sur leur stand à l'hôtel du collectionneur. Venez échanger avec les équipes pédagogiques, bénéficier d'un entretien individuel d'orientation offert et découvrir les programmes d'études en Israël et à l'international. Le Salon des écoles juives, dimanche 19 janvier dès 10h, dans les salons de l'hôtel du collectionneur Paris 8e. Entrée gratuite, animation enfant toute la journée. Restauration cachère et services de sécurité sur place. Alors, venez nombreux. Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom, il est 19h.
Radio Shalom, le journal, vous est présenté par Pierre Gondus.
Bonsoir. En ce premier jour de l'année 2025, les Israéliens découvrent l'ampleur des augmentations qui vont impacter de façon dramatique leur pouvoir d'achat. La mesure phare est le passage de la TVA de 17 à 18%, une hausse qui devrait coûter entre 8 000 et 12 000 shekels par an aux foyers israéliens. Les négociations entre le Hamas et Israël concernant les otages ont atteint une impasse, selon des médiateurs arabes cités par le Wall Street Journal. Ces derniers estiment qu'un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages est peu probable avant la fin du mandat du président américain Joe Biden. De son côté, le président élu des États-Unis, Donald Trump, a commenté les négociations entre Israël et le Hamas concernant les otages, affirmant qu'il ferait mieux d'être libéré très bientôt. Demain, jeudi, une réunion ministérielle présidée par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, abordera notamment l'après-guerre et la création d'une alternative gouvernementale au Hamas. Sur le terrain, les soldats israéliens de la brigade Kiryati ont localisé et détruit un complexe de fabrication de roquettes et d'armement dans le nord de Rafiar, contenant des roquettes à moyenne et longue portée. L'armée israélienne qui a décrit pour la première fois l'opération de l'unité Shalgad en Syrie en septembre dernier, qui a déjà été rapportée par plusieurs médias étrangers, au cours de laquelle une installation de production de missiles iraniens utilisée par le Hezbollah a été détruite à Massiyaf dans la province de Hama. C'est en Syrie. Il s'agit de l'une des opérations commando les plus dangereuses et courageuses que l'armée israélienne ait menée ces dernières années hors des frontières. C'est ce qu'ont déclaré plusieurs responsables israéliens. Une attaque à la voiture Bélier a fait au moins 10 morts et 35 blessés dans le quartier historique de la Nouvelle-Orléans. Lors des célébrations du Nouvel An, les faits se sont déroulés vers 3h15 ce matin, lorsqu'un pick-up a délibérément foncé dans la foule qui célébrait la nouvelle année sur Bourbon Street, dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Et puis, dans ses vœux aux Français, Emmanuel Macron admet les ratés de la dissolution et ouvre la voie à des référendums en 2025. Yael Ifra, bonsoir.
Bonsoir.
Yael Ifra, vous êtes l'une de nos correspondantes permanentes en Israël. Alors, en ce premier jour de l'année 2025, les Israéliens déjà harassés par la guerre depuis plus d'un an, par le coût de cette guerre, ont découvert en plus aujourd'hui, comme si ce n'était pas suffisant, l'ampleur des augmentations qui vont impacter significativement leur pouvoir d'achat. Et la mesure phare, c'est le passage de la TVA de 17 à 18%, mais ce n'est pas la seule augmentation.
Oui, alors c'est loin d'être tout. D'abord, en principe, en Israël, vous savez, le 1er janvier, c'est un jour tout à fait comme un autre, puisque le calendrier n'est évidemment pas le calendrier civil, on en parle vaguement comme ça, mais c'est un jour travaillé, et puis on n'y pense pas plus que ça. Sauf que cette année, le 1er janvier, c'est une date relativement catastrophique pour la plupart des ménages israéliens, parce que c'est l'entrée en application d'une flopée de mesures qui visent à réduire le déficit de l'État et à prendre la plus grande partie de ces économies dans la poche des citoyens. Et donc, c'est absolument spectaculaire parce que, même si, bien entendu, l'actualité en Israël est très largement dictée par la guerre, par les otages, par la situation sécuritaire de manière générale, cela fait maintenant au moins une dizaine de jours qu'on ne parle en Israël que de ces augmentations, parce que d'une certaine façon, Pierre, c'est ainsi que le coût de la guerre vient s'incarner. Alors bien sûr, il y a le coût humain, hein, avec tous ces soldats, plus de 800 soldats qui sont morts depuis le début de la guerre, les déplacements des civils, les dégâts qui ont été occasionnés à l'arrière par les différentes roquettes et missiles. Mais en fait, ce coût de la guerre restait relativement invisible. On se rendait compte que ça coûtait très cher, mais on ne le voyait pas. Et aujourd'hui, on va le voir et particulièrement bien. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a choisi, a fait des choix assez radicaux, puisqu'on est en train de fauter le budget de l'État ces jours-ci, et il a choisi, afin de trouver plus de 40 milliards de shekels qui étaient nécessaires pour maintenir le déficit à un taux à peu près correct pour ne pas faire dégringoler l'économie, il les a pris dans la poche des citoyens. Alors, vous l'avez dit, oui, 1% d'augmentation de TVA, la TVA passe donc de 17 à 18%, à la limite, ça pourrait être une mesure que l'on pourrait comprendre. Mais il n'y a pas que ça, puisque tous les services publics de base vont augmenter, à savoir que les transports en commun ont augmenté depuis un an de plus de 45%. Ça veut dire qu'un voyage, un trajet en transport en commun qui coûtait il y a encore un an 5 shekels 50 va désormais coûter 8 shekels, donc plus de 2 euros. Il y a également le prix de l'eau, et puis le prix de l'électricité, et puis la taxe foncière qui est en Israël fixée par l'État, qui va augmenter considérablement. Ça, c'est pour les dépenses. Mais au-delà de ça, l'État a également fait contribuer, entre guillemets, tous les travailleurs d'Israël, tous les salariés, avec des augmentations considérables de cotisations, les cotisations sociales, donc la sécurité sociale, les cotisations santé, le gel des échelons d'impôts, qui fait qu'avec une inflation à 5%, les ménages vont payer finalement plus d'impôts sur un même salaire qu'ils ne l'auraient fait. Il y a aussi la mise à contribution de 2 jours d'un avantage qui consistait en 2 jours de congés payés qu'il va falloir rendre à l'État. Et si vous voulez savoir, tous les médias, depuis les médias économiques jusqu'aux médias grand public, ont fabriqué des espèces de calculatrices sur lesquelles les ménages israéliens vont rentrer leurs revenus pour savoir combien ils vont payer en plus cette année en prélèvement et en coûts. Et ça se compte en dizaines de milliers de shekels. C'est absolument considérable, à tel point qu'on peut craindre que ça ne vienne précipiter une crise économique. Israël est déjà en récession. On ne voit pas très bien pourquoi le gouvernement a pris des mesures qui sont relativement simplistes, qui consistent essentiellement à faire payer ses coûts par la population plutôt que de chercher des moteurs de croissance ou d'économiser. On sait qu'en Israël aujourd'hui, il y a 36 ministères dont plusieurs sont relativement superflus, qu'on pourrait fermer très facilement. On pourrait augmenter l'impôt sur les sociétés. On pourrait chercher à économiser en assainissant un petit peu le fonctionnement des services publics et de la fonction publique. Ce n'est pas du tout le choix qui a été fait. Et donc aujourd'hui, ce 1er janvier 2025 en Israël, ah oui, j'avais oublié, il y a le coût de l'essence aussi qui a augmenté ce matin. Donc ce 1er janvier en Israël, c'est une date civile dont tout le monde va se souvenir parce que ça va être un moment où toute la population d'Israël va devoir commencer à payer la guerre en espèces sonnantes et trébuchantes.
Yaël Ifra, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes l'une de nos correspondantes permanentes en Israël. Merci Yaël, bonsoir et bonne année.
Merci Pierre et bonne année.
Malgré les récents espoirs et la reprise des pourparlers, les négociations entre le Hamas et Israël concernant les otages ont atteint une impasse. C'est ce que disent en tout cas des médiateurs arabes cités par le Wall Street Journal. Ces derniers estime qu'un accord de cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages est peu probable avant la fin du mandat du président américain Joe Biden. Les discussions portées sur une trêve de 60 jours à Gaza en échange de la libération de 30 otages répondant à certains critères. Le Hamas aurait renoncé à exiger la fin totale de la guerre dans l'immédiat, se concentrant plutôt sur un cessez-le-feu temporaire, la libération de prisonniers palestiniens et l'augmentation de l'aide humanitaire vers Gaza. Cependant, des obstacles persistent. Selon le Wall Street Journal, le Hamas a rejeté 12 des 34 otages dont Israël demandait la libération, proposant à la place la libération de 22 otages vivants et de 12 corps. Des sources égyptiennes avaient précédemment rapporté que le Hamas refusait de libérer 11 des 34 otages réclamés par Israël, les considérant comme des soldats. Et puis, autre point de blocage concernant les prisonniers palestiniens, cette fois, les médiateurs arabes affirment qu'Israël a refusé de libérer certains détenus demandés par le Hamas. De son côté, le président élu des États-Unis, Donald Trump, a commenté les négociations entre Israël et le Hamas concernant les otages, affirmant qu'il ferait mieux d'être libéré bientôt. Ses propos ont été tenus devant sa résidence à Mar-a-Lago, en Floride, où il célébrait le Nouvel An en réponse à une question sur ses récentes déclarations promettant l'enfer si le Hamas ne libérait pas les otages avant sa prise de fonction. Et demain, jeudi, une réunion ministérielle présidée par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, en l'absence de Benjamin Netanyahou, abordera notamment l'après-guerre et la création d'une alternative gouvernementale au Hamas, peut-être comme un signal donné au Hamas pour faire avancer un accord. Sur le terrain, les soldats israéliens de la brigade Kiryati ont localisé et détruit un complexe de fabrication de roquettes et d'armement dans le nord de Rafah, contenant des roquettes à moyenne et longue portée. Le porte-parole de l'armée israélienne a ajouté que dans le cadre de cette opération, les forces israéliennes ont éliminé des terroristes et détruit des infrastructures du Hamas dans la zone. Israël a officiellement revendiqué une opération audacieuse ayant ciblé une installation souterraine stratégique iranienne en territoire syrien. C'était au mois de septembre dernier. Les forces spéciales de l'unité Chaldag de l'armée de l'air israélienne ont mené cette opération exceptionnelle en Syrie, pénétrant dans une installation souterraine de fabrication de missiles près de la ville de Masyaf. L'opération qui a impliqué des dizaines d'aéronefs s'est soldée par la destruction complète du site et la récupération des documents sensibles. Les commandos hélicoptés et héliportés sur le site ont neutralisé les forces de sécurité gardant l'installation souterraine avant de la piéger avec des explosifs. L'opération baptisée Couche profonde s'est déroulée sans perte côté israélien, malgré les risques importants liés à un déploiement terrestre en territoire ennemi. Depuis les massacres du 7 octobre 2023, les États-Unis ont fourni une aide militaire d'environ 22 milliards de dollars à Israël, selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Il est également rapporté qu'entre 2019 et 2023, les États-Unis ont fourni environ 69% d'armes à Israël, un chiffre qui est passé à 70% par la suite. Un rapport élaboré par l'armée israélienne a examiné la discipline opérationnelle au combat dans le contexte de l'incident ayant coûté la vie à Zev Elrich et au sergent Gour Kaati dans le sud Liban. Les circonstances de leur mort font toujours l'objet d'une enquête de la police militaire. Le rapport a révélé que l'usure opérationnelle des différentes unités a entraîné un relâchement de la discipline, conduisant à des accidents opérationnels qui auraient pu être évités. Au chapitre politique en Israël, le parti Agudat Israël, qui fait partie de Yahadut HaTorah, a déclaré que Israël Katz, le ministre israélien de la Défense, et Benjamin Netanyahou leur ont promis une loi consensuelle sur la conscription qui sera déposée sur la table de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense la semaine prochaine, bien que les deux membres du parti aient surpris Israël Kornhoff hier en ne s'alignant pas sur sa menace de s'opposer à la loi sur les bénéfices des prisonniers et en s'abstenant du vote. Son entourage affirme que la pression exercée sur le gouvernement a fonctionné. Une attaque à la voiture Bélier a fait au moins 10 morts et 35 blessés dans le quartier historique de la Nouvelle-Orléans lors des célébrations du Nouvel An. Les faits se sont déroulés vers 3h15 du matin lorsqu'un pick-up a délibérément foncé dans la foule qui célébrait le Nouvel An sur Bourbon Street dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Et puis les enquêteurs américains auraient retrouvé un engin explosif, possible engin explosif artisanal, sur les lieux de l'attaque à la voiture Bélier. Nous tentons de confirmer s'il s'agit ou non d'un appareil actif et en fonction. C'est ce qu'a déclaré un des membres du FBI. Rima Hassan est de nouveau visée par une plainte qui a été déposée lundi dernier. L'Observatoire juif de France a déposé une plainte contre l'eurodéputé LFI pour apologie du terrorisme. Ces derniers indiquent que des captures d'écran de tweets de la députée faisant état de la radicalité d'un discours de soutien au Hamas de plus en plus assumé ont été joints à la plainte. Un huitième exercice différent des sept autres sur la forme, d'abord avec une courte vidéo introductive revenant sur les grands moments de 2024, mais sur le fond aussi avec un début d'annonce politique, chose rare au soir du Nouvel An. Dépossédé d'une partie de son pouvoir depuis que le camp du président Macron a perdu les législatives l'été dernier, le président de la République a voulu montrer hier soir qu'il gardait quelques leviers dans la tradition, dans la traditionnelle allocution présidentielle des vœux aux Français diffusée à 20h. Le chef de l'État a reconnu que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français, et il a laissé la voie ouverte à de possibles référendums en 2025. On va marquer une pause dans cette édition et on se retrouve dans un instant avec Annie-Paul Derjanski et son invité. On parlera du prix Sakharov.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. Horte France est un réseau d'écoles présent à Lyon, Marseille, Montreuil, Paris, Strasbourg, Toulouse et Villiers-le-Bel. Plus de 40 formations diplômantes dans les domaines du tertiaire, du paramédical, du digital, de l'énergie et de la mode. Horte France promet un enseignement de qualité du collège au bac plus 5 en initiale ou en alternance depuis plus de 100 ans, permettant à 86% de nos étudiants d'obtenir leur diplôme en 2022. Horte France, c'est aussi un réseau d'entreprises partenaires dynamiques qui accompagnent nos jeunes dans leur démarche de stage et d'emploi. Faites le choix de la réussite. Choisissez Horte France. Vous êtes sur Radio Shalom.
Le journal vous est présenté par Pierre Gandus.
Le 17 décembre dernier, le Parlement européen a décerné le prix Sakharov 2024 à Maria Corina Machado et Edmundo González Urieta, deux figures de l'opposition vénézuélienne. Et parmi les autres candidats potentiels figuraient Women Wedge Peace et Women of the Sun, deux organisations israéliennes et palestiniennes qui travaillent de concert pour la paix au Proche-Orient. Annie-Paul Derjanski, vous étiez, vous, le 17 décembre dernier à Strasbourg, au Parlement européen avec Pascal Chêne de Women Wedge Peace. On vous écoute.
Bonsoir Pierre, on est à Strasbourg. Le prix Sakharov vient d'être remis à 13h à l'opposant vénézuélien, mais nous sommes avec Pascal Chêne qui est israélienne et qui est finaliste de ce prix, c'est-à-dire qu'elle a été nominée avec son amie Rim Adjara qui elle est palestinienne. Pascal Chêne est franco-israélienne. Elle fait partie des femmes qui ont créé cette organisation Women Wedge Peace et elle va nous en dire un petit peu plus. Pascal, s'il vous plaît, vous êtes combien de femmes et qu'est-ce que vous demandez dans votre association ?
Alors, nous sommes actuellement le plus grand mouvement de paix qui existe en Israël. Nous avons 45 000 membres qui sont enregistrés et c'est un mouvement de volontaires avec 99% de femmes qui sont volontaires. C'est un mouvement de femmes. C'est un mouvement qui a pour but d'exercer une influence sur notre gouvernement pour reprendre les négociations et pour arriver à la signature d'un accord diplomatique qui soit juste, qui soit honorable, qui soit durable et qui soit accepté mutuellement par les deux parties pour mettre un terme à ce conflit.
Alors, quand vous dites juste, durable et mettre un terme à ce conflit, c'est des mots, mais concrètement, qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un accord juste et qu'est-ce que c'est que pour vous un accord durable? Ça, c'est, je voudrais que vous précisiez. Et puis, vous dites, on est un mouvement de femmes. Vous êtes un mouvement de femmes uniquement juives israéliennes ou est-ce qu'il y a dans votre mouvement des arabes israéliennes et je fais la distinction des palestiniennes? Donc, je vous demande de bien vouloir nous préciser.
Oui, bien sûr. Alors, nous sommes un mouvement de femmes israéliennes qui essaye d'avoir le plus de diversité possible, c'est-à-dire que nous avons à l'intérieur de notre mouvement des membres qui sont juives, qui peuvent être religieuses ou laïques ou athées, et nous avons aussi des représentantes de la communauté arabe israélienne, que ce soit des femmes musulmanes, chrétiennes et druzes, et nous sommes répartis dans tout le pays, de Galilée jusque dans le sud, dans le Negev. Et nous voulons justement que cette représentation soit la plus diverse possible, comme l'est la société israélienne.
Quand vous dites, je reviens sur ma précédente question, un accord juste, qu'est-ce que c'est que pour vous un accord juste?
Alors, je pense qu'un accord juste est un accord qui reconnaît les besoins des deux peuples, et qui reconnaît la légitimité des deux peuples. Mais évidemment, les négociations n'ont pas encore repris et je pense que lors de la reprise des négociations, il sera bien sûr important de définir tous ces termes-là. Et c'est aussi très important pour nous que les femmes soient présentes au processus de paix et qu'elles soient autour de la table parce que justement nous pensons que les femmes sont un facilitateur de paix et qu'elles pourront mieux définir les besoins de chaque peuple et qu'elles pourront justement aussi faire en sorte que les besoins et les aspirations de chacun soient réunis.
Alors, ce matin, pendant la conférence de presse, vous avez dit, elles ne font pas partie du cabinet de guerre, elles ne font pas partie des cabinets restreints de décision, notamment du côté israélien. Mais quand vous dites, nous voulons participer au processus de négociation, ça veut dire que vous voulez entrer dans la vie politique. Alors, est-ce que ça veut dire que votre association va devenir parti politique et comment?
Alors, notre association est politique, puisque notre agenda est politique, mais nous n'appartenons à aucun parti politique. Nous sommes complètement indépendantes. Maintenant, quand je dis « nous voulons que des femmes prennent part au processus de paix », ça ne veut pas dire « nous » forcément ou « moi » forcément, mais il y a énormément d'expertes en Israël, de femmes qui sont spécialisées dans le domaine de paix et de sécurité, dans le domaine d'accord, et il est très important que les femmes soient présentes, non seulement parce qu'elles représentent la moitié de la population, mais aussi parce qu'elles sont un facilitateur de paix. Elles ont eu un rôle très important en Irlande du Nord, très important au Libéria et en Colombie pour justement arriver à des traités de paix. Et il est donc important que les femmes israéliennes aussi soient autour de la table pour aider à la solution du conflit.
Mais vous avez pourtant en Israël des élues femmes. Vous aviez même des élues dans la gauche israélienne, puisque je pense à vous entendre que politiquement, vous êtes opposée au gouvernement en place et que vous demandez même, on a presque envie de dire, son renversement.
Alors, nous ne demandons pas le renversement du gouvernement, mais nous demandons un changement de gouvernement, parce que nous estimons qu'actuellement, le gouvernement ne favorise pas les chances de paix. Nous pensons qu'actuellement, le gouvernement ne donne pas la priorité au processus de paix. Mais bien sûr, tout doit se faire démocratiquement. Nous sommes un pays démocratique, c'est donc important que ça se passe démocratiquement quand il y aura des élections. Et il est vrai qu'il y a très peu de femmes présentes dans les postes de décision et nous n'avons par exemple pas encore de plan national pour l'application des principes 1325 de la résolution de l'ONU, qui justement est une résolution qui parle de la place des femmes dans les zones de conflit. Et nous nous battons déjà depuis, je dirais, 20 ans pour avoir un plan national et qui n'a toujours pas été adopté, par exemple.
Mais ça veut dire que contrairement à la France, vous n'avez pas la parité femmes-hommes dans les partis politiques et au niveau des listes électorales.
Oui, malheureusement, nous n'avons pas cette parité et je dirais même qu'en plus de ne pas avoir la parité, certains partis politiques ultra-orthodoxes, je dirais, refusent d'avoir des femmes sur leur liste, bien que ce soit illégal. Encore, jusqu'à présent, il n'y a pas de femmes sur les listes des partis politiques religieux. Donc, nous avons vraiment beaucoup de travail à faire pour faire avancer l'égalité aussi dans la sphère politique. Bien que les femmes en Israël soient des femmes qui sont actives, qui sont indépendantes, mais dans certains domaines, nous avons encore beaucoup à faire.
Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne demandiez pas le renversement du gouvernement Netanyahou. Pourtant, parmi vos supporters, moi, j'ai entendu deux choses. D'une part, il court le bruit à Paris, dans les couloirs politiques, qu'on serait en train de préparer un lancement tel celui du général de Gaulle du 18 juin à Londres, c'est-à-dire qu'il y aurait un appel de femmes, pas forcément israéliennes, mais en tous les cas, qui soutiendraient votre mouvement pour dire « Israël, c'est nous ». Comme De Gaulle a dit, la France est à Londres. Est-ce que vous êtes au courant et est-ce que vous soutiendriez une telle initiative ?
Alors, c'est la première fois que j'en entends parler. Donc, je ne suis pas du tout au courant de cette initiative. Donc, je ne peux pas vous dire quelle serait notre réaction. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très important pour nous de sauvegarder notre démocratie. Et toutes nos actions sont non-violentes et légales.
Alors, parmi ceux qui vous soutiennent, et je sais que tout à l'heure il y a eu une conférence de presse, puisque vous êtes aussi les invités de la députée socialiste Chloé Ridel, ici au Parti Socialiste, il y a deux Israéliens palestiniens qui sont amis, c'est-à-dire on a Amoz qui est israélien, qui a perdu ses deux parents dans le 7 octobre, il y a Aziz, son ami palestinien, or Amoz qui fait le tour du monde, Maoz, moi je l'ai entendu prendre la parole publiquement aux États-Unis et dire nous voulons l'arrêt de livraison des armes et de tout outil militaire à l'État d'Israël pour que la guerre cesse. Alors je voudrais savoir si dans vos demandes aussi, dans vos actions, ce que vous demandez aussi, est-ce que vous demandez l'arrêt de toute livraison de fournitures militaires à l'État d'Israël, l'arrêt immédiat de tous les combats sans condition ?
Alors, nous avons été nominés par quelques groupes politiques, qui sont en effet les socialistes et les démocrates, qui est aussi le parti Renew, donc Renaissance. Nous sommes les invités de la vice-présidente Sophie Vilmes, qui fait partie donc de ce groupe politique, Renew. Et donc, à la table ronde qui va se tenir, il y a en effet d'autres invités qui sont, certains sont palestiniens, d'autres sont israéliens. Alors, je ne pourrais pas vous dire... Il faudra demander à Maoz Inon de réagir sur ce que vous venez de dire. Ce que nous demandons, nous, comme mouvement Women Wage Peace, c'est que nous appelons à la fin de la guerre pour que nous puissions relâcher les otages, pour que, je vous rappelle qu'il y a 100 otages encore détenus à Gaza dans des conditions absolument inhumaines. Parmi eux, 24 sont européens. Nous savons exactement ce qui se passe parce que nous avons énormément de témoignages et vraiment il faut arrêter les souffrances. Nous pensons que la fin de la guerre, pas que nous d'ailleurs, beaucoup de généraux et de personnes qui sont experts dans le domaine le disent aussi, qu'il est possible maintenant de faire un arrêt de la guerre parce que les buts ont été atteints. Ça nous permettra de libérer les otages qui sont à Gaza et aussi de mettre fin aux souffrances de la population civile, en particulier des enfants qui sont à Gaza et qui sont des victimes innocentes du conflit.
Alors, vous mettez en fait en tête de vos revendications au fond le cessez-le-feu avec le Hamas et la libération des otages après. Et c'est ce que vous reprochent en fait certains de vos détracteurs qui eux veulent mettre la libération des otages en avant avant de signer le cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont ce raisonnement inversé ?
Alors, vous savez, je ne fais pas partie de la délégation, je ne fais pas partie des négociations, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe et quelles sont les possibilités, mais je pense que si la fin de la guerre actuelle peut permettre la libération des otages, avant que tous ne meurent, parce qu'ils sont en danger, chaque jour remet en cause leur vie, on le sait très bien, et nous avons déjà perdu beaucoup d'otages. Donc je pense que, et je ne suis pas la seule, des généraux le disent eux-mêmes, qu'il est possible actuellement d'arrêter la guerre parce que les buts ont été atteints, et que si en plus c'est pour permettre la libération des otages en vie, donc il faut le faire parce que on ne peut pas les abandonner à leur sort de cette façon.
Alors, vous n'êtes pas seule ici, vous êtes avec Rim Haradja qui va venir nous rejoindre, qui elle est à la tête d'une association de femmes palestiniennes qui s'appelle Women of the Sun, les femmes du soleil. Je pense qu'en France, personne ne sait, et certainement on s'exprime ici sur une radio juive, personne ne sait qu'il y a des femmes palestiniennes qui travaillent en coopération avec des femmes israéliennes. Il y aurait même des femmes à Gaza, elles auraient plusieurs centaines de femmes à Gaza, qui souhaiteraient donc une paix juste, durable, qui permette en fait certainement l'aboutissement de la solution de peuples, deux États. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant que Rim nous rejoigne, puisqu'elle est en interview juste à côté de nous, comment se passent ces relations avec ces femmes palestiniennes ?
Alors, comme je vous l'ai dit, notre mouvement existe déjà depuis dix ans. Nous avons eu donc beaucoup de contacts avec des femmes palestiniennes, avec des leaders palestiniennes. Et depuis il y a à peu près 3 ans, le mouvement Women of the Sun a été créé. Et nous attendions en fait un mouvement comme le nôtre de l'autre côté, côté palestinien. Il était très important pour nous d'avoir des relations de collaboration avec des femmes palestiniennes parce que c'est une action commune, un but commun que nous avons, et aussi parce qu'il était très important de montrer à la société israélienne que nous avons des partenaires, qu'il est possible aussi d'avoir des partenaires côté palestinien et que des femmes palestiniennes veulent aussi mettre fin au conflit de façon pacifique, parce qu'elles aussi ont peur pour leurs enfants et parce qu'elles aussi veulent vivre en paix et en sécurité.
Pascal Chen, je vous remercie d'avoir été sur Radio Shalom pendant que vous êtes en même temps au Parlement européen à Strasbourg. Et je dis à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent que je crois qu'il y a peu de médias français, alors que tous les médias français ouvrent leurs informations le 20h, le 7h du matin, le 13h, sur le conflit actuel entre Israéliens et Palestiniens. Eh bien, on a une femme israélienne, une femme palestinienne, main dans la main, à Strasbourg. Eh bien, peu de médias, manifestement, viennent leur tendre le micro. Et je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de nous avoir permis de nous exprimer. Merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Il se repose du réveillon et il a bien raison, mais on retrouve quand même Marc Scalia, M comme musique, c'est tout de suite et c'est sur Radio Shalom.
A comme artiste, R comme remix, C comme crazy. Au total, votre disque jockey se prénomme Marc.
Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est Schtroumpf.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle soirée. Hier soir, c'était le réveillon du jour de l'an. C'était la dernière journée de l'année 2024. Beaucoup de monde sur Paris, beaucoup de monde sur les champs. Et écoutez, nous on a fait la fête. C'était au restaurant Le Cannes. Voilà, j'étais là-bas, c'est à Paris, dans le 17e, et on a fait une énorme fête, on a fait un quiz, j'ai même animé carrément le blind test, enfin bon, après, il y a eu des dance floor jusqu'à 2-3 heures du matin, mais bon, je suis pas rentré trop tard quand même, hein, une heure et demie, ça me suffira. Pierre, je suppose que t'es, Henri, je pense que t'étais avec les parents, toi.
C'est ça, oui, j'étais sur les Champs-Élysées avec mes parents, on a vu le super feu d'artifice.
Beaucoup de monde ?
Ah oui.
Énorme. Eh oui, c'est ce que j'ai vu à la télé. Bon, écoutez, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année, une nouvelle saison, comme on dit. Que vous souhaitez, qu'elle soit remplie de bonheur cette année, qu'elle soit remplie de fou rire, de projets, de l'amour. Toutes les belles choses de la vie, sans exception, et tout ça, bien sûr, en bonne santé.
Ah ouais,
il a suivi, c'est bien. Allez, en tout cas, on démarre sur les chapeaux de roue, bien entendu, puisqu'on démarre avec notre coup de cœur. Elle démarre 2025 en beauté. C'est Maëva Fischer. Maëva Fischer avec son titre qu'on adore. Ciao, à tout de suite.
T'es dans le sale, t'es dans le vrai, t'es dans le mal, tout ce qui me plaît. Tu me regardes, je me défais, je baisse la garde et les jeux sont faits. Tes mains m'ont mis KO, tes yeux m'ont fait croire que le ciel serait plus beau en jouant avec le feu. Tes mains m'ont mis KO, tes yeux m'ont fait croire que le ciel serait plus beau au-dessus de nous deux. Et tu t'installes dans ma tête, la nuit fait mal, jamais t'arrêtes. T'es pas dans le drama, donc tu me calmes. T'es plus dans le karma, je me désarme. Tes mains m'ont mis KO, tes yeux m'ont fait croire que le ciel serait plus beau en jouant avec le feu. Je me désarme. Tes mains m'ont mis KO, tes yeux m'ont fait croire que le ciel serait plus beau au-dessus de nous deux.
Depuis le 7 octobre, 6000 étudiantes et étudiants de l'Université de Tel Aviv ont été rappelés dans des unités combattantes et se battent sur tous les fronts. Certains sont hélas tombés au combat ou sont blessés. 3000 d'entre eux ont repris le chemin de l'université. 3000 restent mobilisés. Nous, les amis français de l'Université de Tel Aviv, avons mis en place un fonds d'urgence pour les soutenir. Ce fonds finance des bourses d'études et des soutiens psychologiques avec notre faculté spécialisée dans le post-trauma. Soutenez les étudiantes et les étudiants combattants de l'Université de Tel Aviv en donnant en ligne sur allo-don, Association française de l'Université Tel Aviv, et vous recevrez un reçu CERFA. Attention, événement! L'association Choisir l'école juive présente la 6e édition du Salon des écoles juives. Dimanche 19 janvier, préparez sereinement la prochaine rentrée scolaire. Pendant une journée, les représentants de toutes les écoles juives de France et filières post-bac vous accueilleront sur leur stand à l'hôtel du collectionneur. Venez échanger avec les équipes pédagogiques, bénéficier d'un entretien individuel d'orientation offert et découvrir les programmes d'études en Israël et à l'international. Le Salon des écoles juives, dimanche 19 janvier dès 10h, dans les salons de l'hôtel du collectionneur Paris 8e. Entrée gratuite, animation enfant toute la journée. Restauration cachère et services de sécurité sur place. Alors, venez nombreux. Vous êtes sur Radio Shalom.
buried we knew in our eyes. Were we alive? Deep inside we knew our love was true for a while. We paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the day.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, con le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo biffo come te. E poi che avresti di speciale? Che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei, lunga la sa, lei ti fa girare il mondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, in fondo scusa, tu che dai?
M'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, l'ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale? Che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei, lunga la sa, lei ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa, in cambio tu che dai?
Comme toi que regarde tout bas. Comme toi qui dors en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna, mais surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dors en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi.
C'est terminé, première émission de l'année civile qui vient de se terminer. Alors là, quelle classe, on a eu quand même du Madonna, on a eu du Mel Bamo, on a eu du Pino D'Angio, du Goldman, Jean-Jacques Goldman, Earth, Wind & Fire. On a bien démarré l'année musicalement et on est reparti carrément pour une prochaine année. Alors, juste une petite info en tout cas, je serai en vacances, je partirai en vacances à partir du 24 janvier pour un retour le 19 février. Mais entre-temps, eh ben, j'ai un remplacement, on va dire, de marque, un remplacement en or, un remplacement de renommée presque mondiale, puisque Dominique Duforest, la voix de Secret Story, prendra les commandes pendant ces 3 semaines de vacances. Voilà. Et toi, Henri, je pense que tu le réaliseras un petit peu.
Faut savoir si Mariam me laissera un petit peu de place.
Exactement, ça c'est Mariam qui voit. Allez, bonne soirée à vous. On se donne rendez-vous bien sûr demain, 2 janvier, avec un autre style musical, une autre programmation et bien sûr des lives. Rien que du live Instagram. Bisous.